La vie commence à 45 ans. Une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour mes amis auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous donner du réconfort. On en a bien besoin, hein ? Alors, quoi de plus réconfortant qu'un savoureux repas, qu'un plat qui nous rappelle notre enfance ? On va se mettre en condition, fermer les yeux. On se met dans cette ambiance où on sent des bonnes odeurs d'huile d'olive, de pois chiche, de cumin, d'harissa, d'ail. Ça y est, vous sentez mieux ? Eh bien, ça va être comme ça pendant 20 minutes. Alors, une fois n'est pas coutume, mon invitée n'a pas 45 ans. Elle est plus jeune, mais on l'accepte quand même dans notre club. J'ai voulu la convier pour parler de bons plats familiaux, de cuisine orientale, de saveurs ancestrales. Nous allons nous plonger dans son univers où la gourmandise est le plus adorable des péchés. Nous allons voir que nous pouvons nous régaler avec une cuisine méditerranéenne et traditionnelle, mais néanmoins partager des plats équilibrés et bons pour la santé. Moi qui suis une épicurienne, ça me parle à fond. Et vous aussi, j'imagine. Ce concept de se régaler sans culpabiliser. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors, Chloé, je t'ai invitée, Chloé Saada, qui est chef de cuisine et auteur de nombreux livres, comme vous le savez, pour nous parler justement de cuisine méditerranéenne et de cuisine saine. Donc j'aimerais d'abord que tu te présentes.
Alors je m'appelle donc Chloé Saada, j'ai 42 ans, donc je ne suis pas très loin des 45. Donc moi j'ai fait des études d'art, donc mon premier amour est l'art, la sculpture, la photographie. Enfin voilà, je suis arrivée à la cuisine par les cupcakes. Alors vous avez peut-être entendu parler de mes boutiques à l'époque, qui étaient toutes roses, qui étaient dans le quartier de Pigalle et de l'avenue Trudaine.
Oui, moi je les avais vues, oui. Voilà. Mais alors attends, t'as été beaucoup trop vite.
Trop
là,
vite dans ma vie.
Moi je voulais que tu me dises, je sais pas, j'ai des enfants.
Ah oui, j'ai deux enfants.
T'as deux enfants, t'as 42 ans.
Deux garçons, trop mignons, je suis mariée.
Voilà, ça c'est déjà pour planter le décor.
Ça c'est le décor.
Et tu es donc chef de cuisine et auteur de livres.
Et auteur de livres, j'ai animé nombreuses émissions de télévision culinaire aussi.
D'accord.
Donc sur les chaînes thématiques de cuisine, j'ai eu des émissions sur Cuisine TV, Gourmet TV, enfin voilà, toutes ces chaînes-là, Cuisine Plus.
Voilà, donc ça, on plante le décor. Après, bah effectivement, tu me parlais de tes études d'art, mais en fait, tu étais dans une famille d'artistes, toi, au départ ?
Alors, je suis dans une famille un peu vraiment d'artistes. J'ai un papa chirurgien gynécologue, une maman psychanalyste. Donc les deux, ça peut donner par là mon cul, ma tête est malade, donc ça fait forcément des enfants artistes.
Mais je crois que ta mère, elle aimait bien discuter avec ses copines au Café de Flore, c'est ce que j'ai lu.
Alors ma mère, elle est passionnée de littérature, elle lit des livres toute la journée, elle est cinéphile, elle va au cinéma voir tous les films qui sortent. Elle a monté un festival de musique, elle chantait quand elle était jeune. Et j'ai un papa qui est fou d'art plastique, qui m'a emmené voir toutes les expos, tous les musées, enfin voilà. Donc oui, on est dans une famille où l'art est très très important.
Tu m'as dit que pour te faire plaisir quand t'étais enfant, il fallait t'acheter quoi ?
Il fallait m'emmener dans les magasins de loisirs créatifs et me dire « tu peux remplir ton panier avec tout ce que tu veux ». Et là, mais je le remplissais avec des pâtes à modeler qui cuisent au four, avec des toiles, de la peinture à l'huile, enfin ça a toujours été... ce qui me rendait très très heureuse.
On se ressemble toutes les deux parce que moi c'était la même chose. J'adorais aller chez Rouget et Plaît pour pas le citer à l'époque. Mmh. Et d'ailleurs j'ai fait des études de styliste. Donc tu vois.
Voilà, c'est ça.
Donc toi t'as été à Penningen, voilà. Ouais. Et ensuite au sortir de cette prestigieuse école, tu deviens graphiste. Tu fais quoi ?
Donc je suis photographe, graphiste. Je fais pas mal d'affiches de théâtre. Je fais des catalogues pour des marques de prêt-à-porter, des campagnes de pub.
D'accord. Enfin, voilà. Mais comment tu as basculé donc, de la photographie à la cuisine ?
Alors, ça s'est fait un peu sur un... Une idée, un coup de tête, j'ai importé les cupcakes, j'ai médiatisé les cupcakes. En France, il y avait déjà des boutiques,
oui.
Mais moi, j'en ai fait un objet médiatique. J'ai compris que c'était une façon de manger les marques. Donc, ouais. J'ai été la première à faire des logos imprimés sur les gâteaux.
Quelle bonne idée.
À travailler le packaging, l'image. Ma boutique était toute rose, je m'habille en pin-up. Tout l'univers autour était travaillé comme un objet graphique.
Oui, donc d'ailleurs, moi je me souviens, j'avais vraiment envie de manger des cupcakes à partir de ce moment-là.
C'est ça, c'était un produit ultra tendance. On a l'habitude d'avoir de la mode dans la mode, mais des modes en cuisine, c'était assez rare à cette époque-là. Maintenant, ça se voit beaucoup.
Et tu en as fait un livre ?
Et j'en ai fait un livre à l'époque, Les Cupcakes de Chloé, qui est le premier livre que j'ai fait, qui est édité chez Hachette, qui était un peu les recettes phares de la boutique.
Et ensuite, tu as écrit un deuxième livre, donc Salam Shalom. Pourquoi ?
C'était suite aux attentats à Paris et j'avais envie de mettre mon petit grain de... Que je dis souvent, j'ai fait comme le colibri, quoi. J'ai mis mon grain de couscous dans le bouillon.
Ouais.
J'avais envie de faire un message de paix et la seule façon que j'avais de m'exprimer à ce moment-là était la cuisine.
Donc c'est quoi dans ce livre ? Pourquoi c'est un message de paix ?
C'est les recettes communes aux trois religions monothéistes, au Maghreb et au Moyen-Orient. Et j'ai été chercher quelles étaient les recettes communes en disant s'ils mangent le même plat, ils ne peuvent pas se détester à ce point-là. Voilà.
On devrait en ce moment le ressortir, hein, ce livre, hein, parce que c'est nécessaire. Ton troisième livre, il a fait un carton. Je me souviens le découvrir à la FNAC, pour ne pas la citer. Ça s'appelle Paris-Tel Aviv. Alors, c'est quoi ce livre-ci ?
Alors, là, c'est un livre de commande. C'est Hachette qui me l'a demandé. Il venait d'acheter les droits d'Ottolenghi. D'ailleurs, c'est mon éditeur qui a tous les droits d'Ottolenghi que vous avez sûrement tous chez vous.
Ouais.
Et du coup, j'ai été à la rencontre des chefs israéliens qui font la cuisine moderne israélienne. Notamment Yael Shani, que vous connaissez sûrement,
oui,
pour
Mizmon,
pour son chou-fleur, voilà, qui a fait très peu d'interviews, mais moi je l'ai interviewé, je l'ai pris en photo. C'est même devenu un copain, quoi, on peut dire ça. J'ai même été en stage chez lui à New York au moment où il montait Mizmon à New York.
Wow.
Donc voilà, c'est un chef que j'admire énormément et plein d'autres aussi dans ce livre.
Et la couverture, je l'ai adorée, c'est toi qui l'as créée ?
J'ai participé à la direction artistique de tous mes livres. Sortie de Penningen, forcément,
oui,
je comprends. Donc la plupart des photos de mes livres sont de moi, de la direction artistique, de l'idée, de décor du livre aussi.
On peut toujours se les fournir ou il faut se les fournir sous le manteau ?
Alors, Salam Shalom et Paris Tel Aviv, il faut un peu se les fournir sous le manteau. Ils sont plus édités par l'éditeur, on les trouve sur des sites de revente. Je sais que voilà, c'est un peu...
Ça va être des livres de collection, hein, parce qu'on les a feuilletés là, juste avant l'émission. Et franchement, moi, j'ai envie de les avoir. Je vais chercher...
J'ai tous les droits de Salam Shalom. D'ailleurs, si dans les auditeurs, il y a un imprimeur, un éditeur qui veut m'aider à le ressortir, je ne suis pas contre. J'ai beaucoup de demandes. Je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Mais oui. Écoutez ça, parce que franchement, il est magnifique, ce livre. Après, donc, ces deux livres, ces trois livres d'ailleurs, de voyages culinaires, tu as sorti deux nouveaux opus axés plutôt sur la cuisine équilibrée, sur de la cuisine plutôt pour la santé. Mais pourquoi tu as fait ce livre donc, qui s'appelle « Low Carb » et « Zéro sucre » ?
Alors, zéro sucre. Alors, moi, j'ai changé complètement mon alimentation au moment du confinement.
D'accord.
Alors, au moment du confinement... Je suis diabétique depuis que je suis petite, donc je ne mange pas de sucre. J'avais envie de réduire mon insuline et je voulais trouver une alternative. Je m'étais mis ça en challenge. Je m'étais dit, je suis à la maison, j'ai le temps de cuisiner. Je vais essayer de me challenger là-dessus. J'aime bien me faire ce genre de petits challenges. Et du coup, j'ai cherché toutes les alternatives saines au sucre, au saccharose. Donc, dans ce livre, on va retrouver aussi bien des recettes cétogènes. Donc, on va vraiment réduire tous les sucres, donc même les glucides.
Mmh.
On retrouvera notamment pas de farine blanche, qui sera remplacée par de la poudre d'amande, qui ne lève pas du tout la glycémie. Et à côté de ça, on va trouver des recettes avec du miel d'acacia, par exemple, qui a 50% moins de glucides que le sucre de table. Voilà, j'ai vraiment voulu montrer un panel de toutes les alternatives saines au sucre.
Bon, on va en parler un petit peu plus et aussi de tous tes conseils pour justement diminuer le sucre dans notre alimentation. Juste après une pause musicale, et évidemment, tu as choisi une chanson de...
De ma sœur, Aurélie Saada.
Et on va écouter La Merveille.
Mes yeux se penchent sur cette femme. Elle joue dans les vagues sur le sable. Accrochée à ses jambes comme un mât, une petite fille serre ses 10 doigts. Ronde comme une matriote.
J'adore cette chanson de ta sœur parce que vraiment, c'est une ambiance tellement jolie. Je l'ai écoutée en boucle, cette chanson. dis-moi, on a parlé, donc on a commencé à parler cuisine, évidemment, et on a parlé de tes livres qui sont vraiment exceptionnels. D'ailleurs, le dernier, là, c'est le dernier que tu as écrit, Low Carb ?
Low Carb, c'est le tout dernier. Ouais.
D'accord. Moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est que donc, c'est plus de 90 recettes pour dire bye-bye aux glucides, c'est qu'en fait, on a des envies, souvent. Et quand on prend le sommaire de ton livre, on voit envie de pain, envie de croquant et croustillant, envie de petit déjeuner ou de brunch, envie de cuisine du monde, envie de tradition française. Et à chaque fois, tu nous proposes des recettes qui vont être donc sans sucre, c'est ça ?
Enfin, ouais, sans sucre et limiter au maximum les glucides. Souvent, on est un peu perdu entre le sucre, les sucres et les glucides. Mm-hmm. En fait... les glucides, c'est tout ce qui va faire monter la glycémie dans le sang. En fait, les diabétiques s'en rendent très bien compte, mais en fait, pour tout le monde, c'est néfaste. Il faudrait qu'on arrive à être réguliers tous dans notre sécrétion d'insuline et dans notre glycémie pour éviter ces pics qui nous fatiguent. On le voit sur la peau, on le voit sur la santé, on le voit sur le sommeil. En fait, c'est très mauvais, finalement, pour la santé d'avoir des pics de glycémie. Donc, avec ce livre-là, c'est une façon de réussir à avoir une stabilité là-dessus.
Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on a vu que aussi ton univers était quand même très imprégné de cuisine méditerranéenne et certainement que nos auditeurs aussi. Hein. Mais est-ce que c'est une cuisine saine, la cuisine méditerranéenne ? Parce que quand même, ça baigne dans l'huile. Hein.
Ben alors oui, il y a souvent l'anecdote de la grand-mère tunisienne qui remplit sa marmite avec 1 litre d'huile et son petit-fils, il dit « Tu fais quoi, mamie ?» Elle dit « Je sais pas encore. » C'est un peu ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a longtemps diabolisé le gras. Moi, j'ai compris que le gras ne faisait pas grossir. Déjà, le gras écœure. Donc, quand il y en a trop, on en mange moins. Mmh. déjà.
Ouais.
Ensuite, le combo qui est catastrophique, c'est le mélange de gras et de sucre. Donc ça va être, évidemment, la pkaïla avec la semoule, c'est pas terrible. Mais si on mange la pkaïla sans semoule, ouais, elle vous fera pas grossière. En fait, on peut toujours, en réduisant les glucides, finalement, manger plus sainement, en gardant les légumineuses, enfin voilà.
Et puis tu me disais que de toute façon, c'était une cuisine où il y avait beaucoup de légumes et de fruits.
Exactement, c'est une cuisine où il y a beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses, donc finalement beaucoup de fibres.
Mm-hmm. Ah oui, les pois chiches,
le gras,
les lentilles.
L'huile d'olive, c'est pas du beurre, c'est pas du gras de viande.
Ouais.
On se sert, voilà, le gras est plutôt un gras sain quand même en Méditerranée.
Donc en fait, on ne doit pas faire l'impasse sur le gras, mais c'est surtout sur le sucre. Mais comment faire pour baisser le sucre dans notre alimentation?
Par exemple, je donnais l'exemple du couscous. Alors le couscous, c'est un plat qui de base est très équilibré, parce qu'on a du bouillon avec dedans un petit morceau de viande, beaucoup de légumes, des pois chiches, donc des légumineuses. On sert ça avec de la semoule, qui est de la semoule blanche, malheureusement, parce qu'on a été retiré toutes les fibres dans l'industrie de toutes les céréales. Mmh. Mais déjà, si on pouvait prendre une semoule complète, on aurait déjà réduit les glucides. Et encore mieux, on fait une semoule de chou-fleur. Et alors, on prend un chou-fleur, on prend les fleurettes et on les met dans son mixeur. Et on va obtenir une semoule de chou-fleur. Et quand vous faites juste très légèrement cuire cette semoule de chou-fleur avec le bouillon de votre couscous, vous arrosez de votre bouillon bouillant, et vous servez ça avec votre couscous, c'est bluffant. Vous verrez que vous n'avez plus besoin de semoule avec votre couscous.
Mais de toute façon, là, tu es en train de nous parler d'une recette. Mais moi qui regardais tes deux livres là, j'ai été tout de suite complètement charmée. Moi qui ne suis pas une bonne cuisinière, mais là, j'ai eu envie de cuisiner parce que c'est simple.
Simple, ouais.
Ensuite, tout de suite, on se dit, par exemple, pour tes livres Zéro Sucre, c'est de la pâtisserie. On a envie de cuisiner avec les enfants ou les petits-enfants. Parce que c'est simple et ça va être sain en plus. Donc franchement, achetez les livres de Chloé parce qu'ils donnent vraiment envie de cuisiner et c'est de ça. Cuisiner sainement.
Et si vous avez la flemme de cuisiner, j'ai aussi un service traiteur. Et là, vous pouvez m'appeler.
Ça s'appelle comment ton service
traiteur?
Alors,
il s'appelle Chefa Catherine, mais c'est à mon nom Chloé Saada sur les réseaux sociaux. Il y aura plus de choses, je ne poste pas beaucoup sur les réseaux du traiteur.
Et tu prends en charge combien de personnes?
Alors ça va de un dîner à table en chef à domicile de une douzaine de personnes. Et j'ai déjà fait des événements de 800 personnes, donc je suis capable de faire des gros événements aussi.
Et tu peux servir sur toute la France?
Et oui, même Belgique, Suisse.
D'accord. Et là, en fait, quand tu sers des plats, est-ce que ce sont des plats méditerranéens? C'est quoi le thème?
Oui, c'est de la cuisine méditerranéenne et j'aime bien me promener tout autour de la Méditerranée. Donc, on va aussi retrouver de l'Italie, de l'Espagne, autant que du Maghreb, du Moyen-Orient. Enfin, voilà, j'aime bien me promener autour de la Grèce.
Et tous ces plats, ils sont quand même assez allégés finalement.
En fait, oui, je cuisine beaucoup les légumes. En fait, la force de la cuisine méditerranéenne aussi, c'est que le légume est très cuisiné. On fait énormément de salades. Il y a beaucoup d'herbes fraîches. C'est beaucoup assaisonné à l'huile d'olive, au jus de citron. Enfin, donc oui, c'est une cuisine qui est quand même assez saine.
Est-ce que tu peux nous donner des astuces, des idées pour réduire le sucre dans justement notre pâtisserie, dans notre quotidien?
Alors moi, il y a un mélange que j'aime beaucoup, qui est le mélange d'érythritol et de stevia, qu'on trouve dans tous les supermarchés, sous la marque Purvia, mais il y a d'autres marques aussi qui en font. Il me semble que même Béguincé a son propre mélange érythritol-stevia. Et ça remplace très bien le sucre dans la pâtisserie. On peut aussi utiliser, comme je disais, du miel d'acacia pour faire des petits pains au lait, des choses comme ça. Vous pouvez le faire avec du miel d'acacia.
Tu disais les fruits, tout simplement.
Et les fruits,
banane, c'est très sucré, par exemple.
La banane, c'est très sucré. Vous faites
un cake à la banane,
il n'y a pas besoin de sucre, en fait. Oui. Vous mettez des pépites de chocolat qui sont déjà un petit peu sucrées à l'intérieur et ça suffit. Puis surtout, déshabituer son palais. En fait, le sucre appelle le sucre. Quand on déshabitue son palais du sucre, on ne le supporte plus. Il vient même vous brûler la bouche après. C'est assez drôle.
Et par contre, tu me disais qu'il ne s'agit pas de tout retirer. C'est-à-dire fois, quand on aime bien, parce qu'on parlait du pain ensemble tout à l'heure, le pain blanc, c'est un retiré.
Mais
le
si
jus d'orange,
on adore la baguette, moi je sais qu'il y en a qui adorent la baguette, et vous la gardez pour le week-end en vous disant voilà, je sais que là c'est mon aliment plaisir, ce n'est pas ce que je vais consommer au quotidien, mais le week-end je suis content d'avoir ma baguette. Et déjà vous aurez réduit, parce que si vous le mangez plus qu'un jour sur sept, C'est déjà, vous avez déjà réduit par 7.
Toi, tu me disais aussi que toute ta vie, ça a été un petit peu un combat, le poids.
Alors oui, toute ma vie, moi je suis génération 80, donc Kate Moss en modèle, donc si on fait pas, on n'est jamais trop mince, et si on fait pas un trop de 34, c'est qu'on est grosse. Bon voilà, donc j'ai grandi comme ça. Plus jeune, je devais peser, je fais 1m71, je devais peser 65 kilos et je me trouvais énorme. Et j'étais sûre que si je plaisais pas à un garçon, c'est parce que j'étais énorme. Je me suis rendu compte que, en fait, pas du tout, ce n'est qu'un regard sur soi. J'ai mis du temps à l'accepter et de me dire, en fait, on a le poids de sa gourmandise, c'est pas grave, je ferai jamais un 36.
Mais à partir de quel âge tu as eu cette sagesse, en fait?
Alors moi, c'est venu après mes enfants, vers, je dirais, 36 ans, par là, 35-36 ans. J'ai eu cette prise de conscience. J'ai commencé à maigrir, d'ailleurs, quand j'ai arrêté de me battre avec ça.
Finalement, naturellement, tu as perdu du poids?
Naturellement, j'ai commencé à perdre du poids parce que c'était plus mon combat de vie, donc j'ai dû lâcher quelque chose là-dessus.
Mais d'ailleurs, j'ai fait exactement la même chose que toi.
Ouais,
c'est quand on lâche que finalement, ça va mieux.
Et puis aussi, avoir conscience que les minces ne sont pas plus heureuses que les rondes. C'est pas vrai.
C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure et j'ai réalisé que c'était vrai.
Ouais. Bah, c'est vrai, on voit bien que être mince, ça n'empêche pas son mari de partir, que être mince, ça n'empêche pas d'être en dépression. Enfin, et autant que être ronde ne l'empêche pas non plus. Hein, mais en fait, ce n'est pas si important que ça. À partir du moment où on est en bonne santé, c'est pour ça qu'il faut bien manger.
Oui,
parce que la seule importance là-dessus est d'être en bonne santé. Mais clairement, entre un 38 et un 40, il n'y a pas de différence sur la santé.
Oui, c'est entièrement d'accord. Tu me disais que c'est une utopie de penser qu'en étant plus mince, on va être plus heureuse.
Oui. Donc, d'ailleurs, souvent, je trouve que c'est très compliqué. Autour de moi, les filles qui ont beaucoup maigri ont beaucoup de mal avec leur image et leur rapport à la société. Je trouve que souvent, ça génère quelque chose d'assez malsain, finalement.
Mmh. Bon, moi ça me va bien parce que comme je suis un peu ronde, tu vois, tout ce que tu me dis, je bois ça comme du petit lait. Est-ce que tu as une dernière pensée philosophique? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais j'ai adoré et je voudrais vraiment que nos auditeurs l'écoutent parce que c'est positif, c'est du positif en barre.
Alors je dis souvent que il y a deux grands philosophes moi qui m'inspirent dans la vie et c'est Obélix et Balou. Donc Obélix il dit quand l'appétit va tout va et Balou il dit il en faut peu pour être heureux.
Et ça je voudrais que vous en souveniez tous les jours le matin, votre mantra ça sera ça. Merci beaucoup Chloé d'être venue dans notre émission, enfin dans mon émission La vie commence à 45
Merci
ans.
Merci de m'avoir invitée.
Et surtout courez acheter ses livres et cuisiner, pâtisser d'une façon plus allégée et gourmande comme tu nous l'as conseillé lors de cette émission. À bientôt en tous les cas.
À bientôt.